d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 universelle du lundi 5 novembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Enlèvement au Cameroun de plus de 80 personnes, dont une majorité d'élèves en région anglophone. Élection présidentielle à Madagascar, mercredi, 36 candidats en lice, dont 3 ex-présidents. Élection cruciale demain, ici aux États-Unis pour le contrôle du Congrès qui est entre les mains des Républicains.
C'est un moment dans lequel le peuple américain va prendre une décision si la voie que le président Trump a choisie pour notre pays.
Entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, ciblant notamment le secteur pétrolier. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous au Cameroun. 82 personnes, dont 79 élèves, ont été kidnappées tôt ce lundi à Bemenda. C'est la deuxième fois en 48 heures que des enlèvements ont été perpétrés en zone anglophone. De Yaoundé, les précisions d'Emmanuel Jultap.
C'est entre 4 heures et 5 heures du matin que les 82 personnes ont été enlevées. Un enseignant, un chauffeur et le principal de la Presbyterian Secondary School figurent aussi parmi les personnes kidnappées. Les élèves enlevés habitaient l'internat de ce collège confessionnel situé au quartier Nkwen, non loin du centre-ville de Bamenda. Le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Didier Badiek, a fait savoir à VOA Afrique que les auteurs de ce kidnapping sont, je cite, « des ravisseurs et probablement des terroristes sécessionnistes ». Les forces de défense et de sécurité, ajoute le colonel Badiek, ont reçu les instructions de mettre tous les moyens disponibles à contribution pour un dénouement heureux de cette situation. Pour l'heure, le lieu où les élèves enlevés ont été conduits reste inconnu, mais sur une vidéo de propagande dont VOA Afrique a obtenu copie, deux hommes passent à un interrogatoire des jeunes gens qui s'identifient comme étant des élèves du collège où le kidnapping a eu lieu ce lundi matin. Sous la menace d'une arme, tous déclarent qu'ils n'iront plus à l'école en cas de leur libération. Samedi, le sous-préfet de Nouni, toujours dans la région du Nord-Ouest, a été enlevé à un poste de contrôle érigé par les sécessionnistes anglophones et il reste introuvable. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Un sous-préfet du nord du Tchad a annoncé ce lundi avoir rejoint un comité d'autodéfense contre l'armée tchadienne. Il a démissionné de ses fonctions hier pour protester contre une opération militaire tchadienne dans le Tibesti. Le ministre tchadien de la Sécurité, Ahmad Mahamad Bachir, a de son côté affirmé que ce sous-préfet, Mouly Sougui, a été viré. Il n'a pas démissionné. En République démocratique du Congo, 17 militants du mouvement Vigilance citoyenne en détention depuis jeudi à Kinshasa ont arrêté de se nourrir selon un responsable de l'organisation. Nous sommes passés leur déposer à manger, ils ont refusé. Ils disent qu'ils ont seulement besoin de liberté, a-t-il déclaré. Jeudi, donc 18 membres de VICI ont été interpellés alors qu'ils participaient à une campagne d'éducation civique et électorale. Un d'entre eux a été libéré le lendemain après avoir brandi sa carte officielle de défenseur des droits de l'homme. Par ailleurs, les autorités congolaises avancent un nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola qui s'établit à 186 décès. Les deux nouveaux cas confirmés dans le territoire de Beni sont une jeune fille et son nouveau-né de 2 semaines. Le bébé et sa mère sont admis pour des soins dans un centre spécialisé de la région, a affirmé donc un bulletin officiel du ministère de la Santé. Au total, 298 cas ont été signalés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. En Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et centres de santé publique ont entamé ce lundi une grève de 5 jours pour réclamer de meilleurs salaires. Selon un responsable syndical, les 2/3 du personnel de santé sont en grève et 9 centres de santé publique sur 10 sont touchés. Les agents de santé réclament des augmentations de salaire et des primes, ainsi que l'amélioration de leur statut. À Madagascar, 36 candidats sont en lice pour le premier tour de la présidentielle mercredi. Mais la bataille se joue avant tout entre 3 favoris, tous anciens présidents de la Grande-Île. Le point avec Nani Talani.
Le défi des élections de cette année est de consolider la paix, selon Saondra Rabenarivo, membre de CFAIFI, une organisation d'observation locale. L'élection présidentielle du 7 novembre viendra clore un climat politique tendu. Trois anciens chefs d'État, qui n'avaient pas été autorisés à se présenter à la dernière présidentielle de 2013, sont donnés favoris. R. Rajomampian, économiste et poète âgé de 60 ans, est en compétition avec deux de ses prédécesseurs, Marc Rabalomanana, le millionnaire de 68 ans, qui a gouverné de 2002 à 2009, qui n'a toujours pas digéré son éviction du pouvoir en 2009 et entend bien prendre cette année sa revanche. André Rajoelina, jeune patron de société publicitaire âgé de 44 ans, surnommé le disc jockey, qui lui a succédé au pouvoir jusqu'en 2013. Ces trois hommes ont vu leur mandat terni par des crises politiques. Il y a de fortes probabilités que le futur président malgache sorte de ce cercle restreint.
La police espagnole a annoncé l'arrestation d'un passeur accusé d'avoir causé la mort de 20 migrants africains noyés en tentant de gagner l'Espagne dans un canot pneumatique. Le passeur, un Gambien de 24 ans, a été placé en détention provisoire et accusé d'homicide involontaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Américains se rendront aux urnes demain dans le cadre des élections de mi-mandat. Il s'agit effectivement d'un scrutin qui se tient au milieu du mandat du président américain et qui rythme la politique intérieure des États-Unis dans l'attente de la prochaine présidentielle. Irénée Herman-Ungbo nous apporte quelques explications sur ce processus.
Les élections de mi-mandat aux États-Unis se tiennent le premier mardi du mois de novembre. Et le vote indique qui contrôlera le Congrès américain. Les 435 sièges sont à pourvoir à la Chambre des représentants, où les membres ont un mandat de 2 ans renouvelable. Environ un tiers des 100 sièges du Sénat sont en jeu pour un mandat de 6 ans renouvelable. Les résultats des élections de mi-mandat sont très importants quant à la capacité du président à gouverner le pays. Les partis désignent leurs candidats à travers des élections primaires tenues avant le vote de novembre. Ce sont ces candidats qui les représenteront au scrutin de ce mardi. En plus du Congrès, 36 nouveaux gouverneurs sur 50 que compte le pays, un pour chaque État, seront également élus demain.
Les États-Unis ont promis d'exercer une pression implacable pour faire plier l'Iran, qui entend contourner avec fierté les sanctions rétablies par Washington contre les secteurs pétroliers et financiers. Nathalie Barche.
Washington, qui s'est retiré en mai de l'accord de 2015 censé empêcher l'Iran de fabriquer la bombe atomique, a terminé de rétablir toutes les sanctions levées après sa signature. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dévoilé la liste des 8 pays autorisés pendant encore 6 mois au moins à continuer d'acheter du pétrole à Téhéran. Il s'agit de la Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la Grèce. De telles dérogations, au motif que ces pays se sont engagés à continuer de réduire leurs achats, avaient déjà été octroyées par la précédente administration de Barack Obama de 2012 à 2015. Mais l'actuel gouvernement affirme être plus strict et affiche l'objectif de ramener à zéro les exportations iraniennes de brut qui assurent 40% des recettes de l'Iran. Elles ont baissé d'1 million de barils par jour depuis mai dernier pour s'établir à 1,6 million de barils par jour en septembre.
L'Arabie saoudite assure à l'ONU que l'enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi sera impartiale après une nouvelle série de critiques plus d'un mois après la disparition du journaliste. Cette promesse a été faite ce lundi alors que les membres de l'ONU procédaient à Genève à l'examen du respect des droits de l'homme par l'Arabie saoudite. Cette procédure ordinaire à laquelle doivent se soumettre régulièrement tous les membres des Nations unies a pris une autre dimension avec l'affaire Jamal Khashoggi, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Au Yémen, des combats au sol et des raids aériens se sont intensifiés ce lundi autour de Hodeïda, port stratégique de l'Ouest contrôlé par les rebelles Houthis. Inquiétude des citoyens européens vivant en Grande-Bretagne, des centaines d'entre eux, ainsi que des Britanniques installés dans des pays de l'UE, ont formé une chaîne humaine à Londres pour demander au gouvernement britannique de garantir leurs droits dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Et puis l'avocat de la Pakistanaise Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème avant d'être acquittée, a affirmé avoir quitté le pays contre sa volonté. Mais le mari d'Asia Bibi a déclaré, lui, qu'il s'inquiétait pour la sécurité de sa famille. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire exportera 100 000 tonnes de noix de cajou vers la Chine en 2018-2019. Le Conseil ivoirien du coton et de la nacarde vient de signer un accord avec le groupe chinois CGCOC. Il porte sur la fourniture de fertilisants et d'engrais aux producteurs de coton et d'anacarde et un appui financier à l'acquisition des équipements de transformation. La Centrafrique bénéficiera de la France d'un financement de 27 millions de dollars et d'une livraison d'armes, a indiqué le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite à Bangui la semaine dernière. Ces fonds devraient permettre au gouvernement de régler les arriérés des salaires de fonctionnaires, de construire des ponts et de mettre en place un plan d'aide aux réfugiés et déplacés centrafricains installés principalement à la frontière avec le Cameroun. Près de 1400 fusils d'assaut devraient également être livrés aux autorités pour aider à l'équipement des forces armées centrafricaines en pleine reconstitution. Pour finir, au Soudan, le gouvernement augmente sa subvention au blé de 40% selon l'annonce faite hier par le ministère des Finances. Il dépensera désormais 35 millions de livres soudanaises par jour pour subventionner la farine de blé contre 25 millions de livres consacrés jusqu'ici. Cette augmentation devrait permettre au gouvernement de fournir de la matière première moins chère aux minoteries et de réduire les prix du pain qui ont doublé en raison de la suspension de la subvention céréalière pour 2018.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'Espérance Tunis menace de boycotter la finale retour de la Ligue des Champions.
Très remontée à l'issue de la finale aller perdue vendredi dernier contre Al Ahly 1-3, avec deux pénaltys douteux sifflés à son encontre, l'Espérance de Tunis a demandé à la CAF d'annuler la sanction de huis clos partiel censé frapper les virages du stade de Rades lors de la finale retour vendredi prochain. En cas de décision défavorable, le club tunisien menace de boycotter la rencontre d'après la presse tunisienne. Les Saints et Or espèrent aussi de la CAF l'annulation des cartons jaunes infligés à Shamseddine Daoudi et Franck Comme qui ont entraîné leur suspension pour le match retour et demandent à l'inverse que l'attaquant adverse Walid Azaro de Al Ahly soit sanctionné pour son comportement à l'aller.
Mazembe a renversé Vita Club dans le Classico congolais.
Et oui, intraitable en championnat en ce début de saison, le TP Mazembe a poursuivi son sans-faute en renversant Vita Club 3-2 hier au terme d'un Classico complètement fou, mené au score à deux reprises sur des buts de Luamba à la 29e puis Kazadi à la 65e. Les corbeaux de Lubumbashi ont répondu à chaque fois par Muleika puis Kalaba. Passeur décisif sur les deux premiers buts, Mputu a ensuite arraché la victoire en faveur du TP Mazembe à la 83e, assurant aux siens un 8e succès en 8 matchs.
L'Angola, champion du monde de football pour amputés.
L'Angola est devenue hier la première nation africaine à remporter la Coupe du monde de football pour amputés. En finale, les Africains ont dominé la Turquie, championne d'Europe, dans les tirs au but 5-4. En plus de l'Angola, le Nigeria et le Kenya ont représenté l'Afrique à cette compétition qui se tenait à Guadalajara, au Mexique, depuis le 24 octobre.
Athlétisme, Ketani et Desiza se sont imposés au marathon de New York.
8 déjà lauréates de l'épreuve en 2014, 2015 et 2016, la Kenyane Mary Keitany s'est imposée en solitaire en 2h22 minutes 48 secondes. Elle devient à 36 ans la deuxième athlète la plus titrée sur le parcours new-yorkais, derrière la Norvégienne Grete Waitz, 9 victoires. Une autre Kenyane, Viviane Cheruiyot, est arrivée en seconde position. L'Américaine Charlene Flanagan a pris la troisième place. Chez les hommes, l'Éthiopien Lilesa Deziza s'est imposé en 2h05 minutes 59 secondes. Il a devancé son compatriote Shura Kitata et le Kenyan tenant du titre Geoffrey Kamworor, third.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour. Madagascar se prépare à élire mercredi son prochain président. 36 candidats sont en lice, dont 3 anciens chefs d'État. Le pays a traversé plusieurs crises politico-militaires ces dernières années. Et pour analyse, Morgane Guerrier, qu'a joint le directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar, David Rajaoun.
Peut-être que pour la première fois à Madagascar, il y aura une élection en bonne et due forme. Et bien évidemment, on espère qu'il y aura un président qui sera élu et que tout de suite après, il n'y aura pas encore une crise politique.
Justement, à quelques jours du vote, quelle est l'ambiance ?
On craignait au début en fait que l'élection allait être reportée parce qu'il y a des candidats qui le réclamaient. Et on craignait également que on se verserait dans la violence. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout se passe normalement. Une ambiance de campagne électorale avec des effets un peu festifs, mais également avec des échanges un peu virulents. Mais on a aussi remarqué que les candidats se pliaient au jeu démocratique, c'est-à-dire, entre autres, pour la première fois, il y a des passages de tous les candidats dans des débats télévisuels.
Vous êtes optimiste ?
Optimiste en termes, je dirais, ce jeu démocratique, mais toujours est-il qu'il y a un risque de glissement vers une contestation électorale, tout simplement parce que il y a trop d'enjeux, je dirais, personnels autour de cette élection. Entre les anciens candidats, je rappelle qu'il y a quand même 4 anciens présidents de la République qui se présentent à cette élection.
Transparency International parle notamment de vote acheté, d'autres dénoncent des irrégularités dans les listes. Que dire de la crédibilité de ce vote ?
Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté d'information. Il y a aussi l'effet des médias sociaux. Donc, tout le monde s'exprime avec Internet. On reporte facilement des irrégularités qu'auparavant. Il y a quand même une amélioration de cette fameuse liste. On dénombre 1500 anomalies reportées par ces mêmes candidats. Bon, 1500 sur 9 millions 800 000, je pense que quand même, on ne peut pas trop dire que... Il y a beaucoup de fautes de la part de la commission.
C'était David Rajaoun, directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar.
Ce soir, dans À votre avis, nous parlons du Cameroun et de la crise dans les régions anglophones. 79 élèves ont été enlevés ce matin à Bamenda. C'est le plus important kidnapping dans cette zone anglophone depuis le début du conflit avec les séparatistes armés. À la veille de la prestation de serment du président Paul Biya, un enseignant et un chauffeur ont également été enlevés. La situation est en train de se détériorer dans les zones anglophones du Cameroun. Comment résoudre cette crise ? Morgane Guerrier, en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
Situation difficile pour certains réfugiés centrafricains au Cameroun, où ils sont présents depuis 2014. C'est notamment le cas de ceux du site de Gado Balzere, un petit village situé dans la région de l'est du pays, à plus de 570 km de Yaoundé. Là-bas, plus de 25 000 réfugiés y ont été installés par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Notre correspondant au Cameroun s'est rendu à Gado Balzere et constaté que la ration alimentaire et les soins de santé ne sont pas à la portée de tous les réfugiés, tout comme l'accès à l'eau potable. C'est un reportage d'Emmanuel Jultap.
Un groupe de femmes et d'enfants recueille de l'eau sur le site des réfugiés de Gado Balzere à partir de l'un des forages aménagés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'eau sur ce site est devenue une denrée à utiliser rationnellement. Diopolin Tegou travaille pour l'organisation humanitaire Première Urgence Internationale.
Ce forage fonctionne environ 10 heures par jour. Ce forage, lui, il est ouvert de 6 heures jusqu'à midi, bien après de 14 heures à 18 heures. Le besoin n'est pas complètement comblé. Nous essayons de faire déjà une utilisation rationnelle avec cette quantité-là.
Justement, la demande en eau potable des réfugiés est tellement forte qu'elle va au-delà de leur site. Les ressortissants du village de Gado Balzere payent les frais de cette situation, selon le chef de village, Emmanuel Oumarou.
Avec le nombre de cette population, tout est vraiment un peu difficile. Il faut l'eau d'abord, la vie. Il y avait des bagarres, pourquoi? Pour l'eau. Les ONG ont vite agi en creusant des forages pour ça diminuer.
La vie des réfugiés centrafricains à Gado Balzere tiendrait aussi sur un fil. Ces derniers mois, témoignent deux d'entre eux sous anonymat, l'on n'enregistre plus de morts dans leur rang à l'hôpital, faute de prise en charge rapide.
Les grands problèmes là, les problèmes de santé. Il y a un cas de malades, on t'amène à l'hôpital, on dit qu'il n'y a pas les médicaments.
J'ai vu, on amène des gens partout, les réfugiés qui viennent là-bas, sur 10 peut-être, 8 vont mourir.
Réaction de Ivan Amasoso, point focal d'Africa Humanitarian Action, le partenaire santé du HCR, au centre de santé intégré de Gado Balzere.
Nous sommes en train de quitter de la saison pluvieuse pour la saison sèche. C'est la période de l'année la plus propice pour des pathologies telles que le paludisme et les maladies diarrhéiques. On peut connaître un boom au niveau de la file active des bénéficiaires, que ce soit au poste de santé du site, que ce soit au poste de santé publique ici.
Reste que tous les réfugiés qui vivent sur les sites aménagés par le HCR n'ont pas droit à la ration alimentaire. Certains depuis 2014. Idrissa Oumarou est l'un d'eux. Il a deux femmes et trois enfants sous sa charge.
On n'a rien comme ça. Depuis matin aujourd'hui, il n'est pas mangé. On a parlé avec les femmes à l'autre jour là, bon, il n'est pas venu jusqu'à maintenant.
Et comment tu fais donc pour vivre?
Je suis demandé même à voisin, c'est pas à chaque jour. Un matin comme ça, on voit le café seulement, on part jusqu'à soir. J'ai resté avec manioc comme ça, on mange, on dormit comme ça.
Le sort des réfugiés centrafricains de Gado Balzere pourrait peut-être s'améliorer dans les mois à venir, avec un don de 130 millions de dollars annoncé par la Banque mondiale pour soutenir les concernés et les localités qui les accueillent au Cameroun. Emmanuel Jultap, de retour de Gado Balzere, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, avoir de l'électricité est un luxe pour les ménages, selon notre correspondant sur place, qui ajoute que N'Djamena, la capitale, ne ressemble pas à une ville moderne, alors que les autorités rêvent d'en faire une vitrine de l'Afrique centrale. Les habitants de certains quartiers sont dans le noir depuis plusieurs mois. Une situation décriée par les consommateurs, voire par les députés qui, la semaine dernière, ont interpellé à l'Assemblée nationale le ministre du Pétrole. C'est un reportage de notre correspondant sur place, André Kolmajingar.
Après plus de 100 ans d'existence, N'Djamena est loin de ressembler à une capitale. Bien qu'elle soit dotée de 3 centrales électriques et une mini-raffinerie qui produit de l'énergie, il est pratiquement impossible d'avoir de l'électricité en permanence, privant ainsi des ménages qui veulent bien faire des provisions dans des congélateurs. Dès la tombée de la nuit, la ville est plongée dans le noir, alors que le Tchad est un pays exportateur de pétrole. Quelques consommateurs accusent les agents de la SNE, Société Nationale d'Électricité, de mauvaise foi.
L'électricité, là, vraiment, c'est une denrée rare ici au Tchad, surtout dans notre quartier Chagouaï. De face à arrives à 1h du matin et quand tu te réveilles à 5h, tu n'as plus d'électricité. Déjà 3 mois que nous n'avons pas l'électricité. Nous sommes obligés de dégager les fruits qui sont dans le frigo. Dans d'autres quartiers, là, vous avez l'électricité 24 heures sur 24 heures. Mais qu'ils nous disent le problème est à quel niveau.
Nous avons un sérieux problème d'électricité ici à Walia. L'électricité ne vient que les minuit ou à 1h du matin.
Il faut que le gouvernement nous trouve une solution parce que beaucoup de gens n'aiment pas rester au Tchad à cause de l'électricité.
Une situation que déplorent également quelques citoyens de passage en Djamena.
Je suis venu pour voir la capitale, mais la capitale, ça ne va pas carrément. On coupe l'électricité, après on amène à 23h, des fois 1h, et après 5 minutes, on coupe et ça m'énerve beaucoup. C'est quelle capitale qu'il n'y a pas d'électricité comme ça, là? Ça me donne de la merde.
Après la visite inopinée du président Déby à la direction de la SNE qui semble rien donner, le député à l'Assemblée nationale interpelle le ministre en charge du pétrole la semaine dernière sur les vraies raisons du délestage intempestif de l'électricité dans certains quartiers de N'Djamena. Malheureusement, ils ne se sont pas entendus sur la forme du débat. D'aucuns optent pour une question d'actualité, d'autres pour une question orale avec débat. Réaction de l'auteur de la question, Ahmad Issa Badi, député du parti au pouvoir.
C'est une question très sensible. Aujourd'hui, c'est toute la population qui est concernée. Il faudrait que ce soit une question orale avec débat pour que vraiment la population comprenne que nous, députés, nous sommes aussi concernés.
Ridicule que cela paraître, juste après cette interpellation qui d'ailleurs est renvoyée à une autre séance, les consommateurs ont remarqué que les responsables de la SNE cherchent à se racheter, comme en témoignent quelques-uns.
Je ne sais pas, c'est parce que le ministre du pétrole a été interpellé. Avant-hier, nous avons l'électricité, ils ont repris ça vers le 16h. Et je crois même hier, nous avons l'électricité, jusqu'à ce petit matin, ils ont repris.
C'est pendant 2 jours ici, nous avons laissé l'électricité par rapport à leur facture qu'on nous a remis là. On a réglé leur facture.
Contacté par VOA Afrique, les responsables de la Société nationale d'électricité refusent de donner les vraies raisons de ce délestage. André Kodumbadingar Djamena, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Élection cruciale demain pour le contrôle du Congrès américain. Les démocrates veulent gagner pour freiner l'agenda du président Trump. De leur côté, les républicains cherchent à maintenir leur majorité au Sénat et à la Chambre des représentants pour continuer à soutenir la politique du président. Sur l'importance de ces élections de mi-mandat aux États-Unis, John Lindon a joint ici à Washington Brett Bruen. Il est le président du think tank Global Situation Room.
C'est un moment dans lequel le peuple américain va prendre une décision si la voie que le président Trump a choisie pour notre pays, c'est la voie correcte. Ou bien est-ce qu'on devrait changer un peu vers une balance entre les républicains et les démocrates?
Alors justement, les républicains détiennent actuellement le Sénat et la Chambre des représentants. Quelles sont les chances des démocrates de récupérer l'une de ces chambres ou toutes les deux?
En ce moment, et bien sûr, nous avons eu l'expérience il y a 2 ans, quand les sondages indiquaient que peut-être Hillary Clinton va gagner, mais cette fois-ci, les indications sont que les démocrates, au moins, vont prendre la Chambre des représentants et il y en a des gouverneurs qui pourraient changer à leur côté. Pour le Sénat, c'est beaucoup plus difficile à cause du fait qu'il faut défendre beaucoup plus de membres de leur parti dans ces élections.
Alors, on a vu lors de la campagne à la fois Donald Trump et l'ancien président Barack Obama se lancer dans la campagne pour soutenir des candidats de leur parti. C'est une première ou ça, on a souvent vu ça? Qu'est-ce que cela implique?
Pour les anciens présidents, souvent, ils sont restés à côté de la politique quotidienne. Mais souvent, ils participaient dans les élections pour leur parti. Cette fois-ci, je crois que ce que nous avons vu avec la présence prominente du président Obama au moins, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment un candidat, une personne qui représente le Parti démocrate
Alors, il faut que M. Obama reprenne ses fonctions comme le représentant de son parti, au moins pour les prochains mois. Et après, pendant la campagne présidentielle, on va voir des autres voies pour les démocrates.
Alors, on a reproché à Donald Trump de ne pas battre campagne sur l'économie qui se porte très bien en ce moment. Il a plutôt préféré l'immigration. Pourquoi ce choix?
Parce que sa politique, c'est une politique de peur, c'est une politique de division et il a utilisé cette politique pour motiver sa base, ses partisans. Et malheureusement, on peut dire qu'il y en a des différences après plusieurs semaines de cette politique assez agressive dans.
Voilà, c'est avec donc Brett Bruen qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi. Merci à Joselle Morissin et à Curtis Bannon de l'autre côté de la baie vitrée. C'était une présentation de Abdourahmane Dia. Excellente écoute en compagnie des programmes de VOA Afrique. VOA Afrique.